Bonjour Michel Perotino.
Bonjour Alexis Rosenzweig.
Beaucoup d'enseignements à tirer de ce scrutin législatif. Qu'est-ce qui ressort en premier pour vous?
En premier, c'est évidemment la victoire claire et nette d'André Babiche et de son parti. Et puis, disons un camp libéral conservateur qui est en net recul. On est sur deux blocs.
Peut-être aussi une sévère défaite pour les partis dits partis de gauche.
Parti de gauche, on peut les appeler comme ça, effectivement, si vous pensez à Stachilo et le Parti communiste et la social-démocratie ou les restes de la social-démocratie qui se sont donc réunis sous une bannière un petit peu compliquée. Je rappelle quand même qu'en 2024, Stachilo, quand elle s'est formée, cette coalition, en fait, elle regroupait surtout les communistes, mais aussi un petit parti qui a viré extrême droite. C'est le Parti socialiste national qui, à l'origine, était de gauche, mais il y a très longtemps. C'est une coalition en fait qui est extrêmement nationaliste, plus que de gauche.
Et décrite comme pro-russe également.
Exactement, effectivement.
Est-ce que selon vous, il y aura un nouveau gouvernement tchèque avant la fin de l'année, avant la carpe de Noël?
Avant la carte de Noël, oui, c'est assez probable. On commence à envisager plutôt novembre, peut-être même avant, si Babiche réussit à trouver un compromis avec deux partenaires qui vont être des partenaires difficiles. Donc les automobilistes et puis le SPD. Mais a priori, on devrait pouvoir trouver une entente ou un terrain d'entente pour ces trois partis.
Alors on va essayer de les prendre un par un, ces partenaires potentiels du mouvement ANO d'André Babiche, parce que beaucoup de questions se posent, notamment à propos de ces automobilistes. Comment est-ce que vous les décririez pour les replacer dans le contexte européen? Je dirais d'abord qu'il y a deux élus de ce mouvement, ou en tout cas de cette mouvance au Parlement européen, qui sont entrés dans le même groupe qu'André Babiche et le Rassemblement national français, entre autres, et que le SPD, en revanche, a rejoint le groupe des Europe des nations souveraines.
Alors, je dirais plutôt en fait que le SPD est resté dans le groupe des nations souveraines. C'est-à-dire que c'est l'extrême droite européenne qui a fait scission ou qui est partie et qui a laissé un petit peu tout seul ceux qu'ils ont considérés comme secondaires ou avec lesquels on ne pouvait pas jouer, notamment l'AfD allemand.
Effectivement, au départ, Marine Le Pen était alliée à Tomio
Exactement.
Okamura et
Oui.
a finalement rejoint avec Viktor Orban notamment ce nouveau groupe des Patriotes pour l'Europe avec également André Babiche et le parti FPÖ autrichien. Mais alors pour revenir
Voilà.
peut-être plus précisément à ma question sur les automobilistes, comment est-ce que vous les définissez en quelques mots?
En quelques mots, ce sont des eurosceptiques durs, on va dire. C'est un petit peu la ligne de l'ODS, ou en tout cas une partie de l'ODS, il y a à peu près 20 ans. C'est encore la ligne que défend aujourd'hui l'ex-président de la République, Václav Klaus, avec une différence entre l'un et les autres, c'est-à-dire entre Klaus d'un côté et les automobilistes de l'autre, à savoir la position pro-russe chez Klaus, qui est beaucoup plus claire. L'euroscepticisme des automobilistes, en fait, il est, donc, disons, d'une certaine manière dur, traditionnel dans la droite conservatrice tchèque. Par contre, ce qu'on peut considérer ou ce qu'on peut constater, c'est qu'ils vont tenir cette ligne dure. Ils ont déjà commencé à le faire sur toute une série de problématiques, sur toute une série de thèmes, notamment sur l'immigration, qui est un de leurs chevaux de bataille, sur le Green Deal qu'il faut abattre, sur en fait toute la politique européenne qu'il faut mettre entre parenthèses.
C'est intéressant cette filiation, cet héritage entre les deux anciens présidents, parce qu'autant cette coalition Stachilo était soutenue par l'ancien président Miloš Zeman et la filiation directe entre Václav Klaus et les automobilistes est claire. D'ailleurs, ils ont
Absolument.
rencontré Václav Klaus au soir des résultats de l'élection, samedi soir. Est-ce que vous diriez que ce côté pro-russe de Václav Klaus est peut-être dissimulé chez ces automobilistes?
C'est une bonne question. Il faudrait notre une petite bébête pour entrer dans la tête de Václav Klaus. Ce que je constate, en fait, c'est que Václav Klaus, sur cette thématique, notamment de la politique vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis de la Russie, était beaucoup plus proche du SPD. Il y a eu des tensions entre les automobilistes et Klaus sur cette question. C'est-à-dire qu'il les reconnaissait comme force eurosceptique et il mettait en question d'une certaine manière leur relation un petit peu sceptique vis-à-vis de Poutine en particulier.
Alors, vous parlez du SPD. Revenons également sur cette liste qui a finalement déçu au regard de ce que leur prédisaient les sondages. Et puis, c'est également, comme dans le cas de Stachilo, une coalition de plusieurs partis, quatre si je ne me trompe pas. Donc là aussi, on ne sait pas vraiment encore à quoi s'attendre, même si la ligne est dirigée par le président du SPD, Tomio Okamura. Il y a les Svobodni, Pro et puis Tricolora qui sont des acteurs politiques moins connus ou dont on connaît moins les objectifs.
Absolument. Donc, ce sont en fait des partis qu'on pourrait qualifier, en fait, pour faire rapide et simple, d'ultra-conservateurs sur une même ligne en ce qui concerne l'Union européenne, c'est-à-dire une ligne eurosceptique très dure. Pourquoi on a ces partis différents? Tout simplement pour des raisons essentiellement de personnes, d'une histoire un petit peu compliquée de développement spécifique de ces partis qui ont finalement réussi à se mettre d'accord pour concourir sous la bannière du SPD. Quand vous parlez de coalition, entre parenthèses, on a eu la réponse donnée par la Cour constitutionnelle sur la légalité de ce type de coalition, puisque en fait dans le droit tchèque, on reconnaît essentiellement une coalition au moment des élections, et notamment en distinguant le nombre de partis présents dans la coalition, ce qui va donner un seuil différent pour entrer au Parlement. Pour le SPD et pour Stachilo, dans les deux cas, en fait, on a eu ce qu'on appelle ici une pseudo-coalition, c'est-à-dire un parti qui se présente, dans lequel on va retrouver des formations cachées. Dans l'occurrence, pour le SPD, mené par Tomio Okamura, et pour Stachilo, de fait, mené par les communistes. La différence, elle est essentiellement au niveau des conséquences que cela va avoir une fois que la coalition va être élue. Parce que une pseudo-coalition du type du SPD va l'obliger à n'avoir qu'un seul groupe parlementaire, et surtout, le financement ne va aller qu'à un seul parti, c'est-à-dire en l'occurrence au SPD.
Pour en revenir au grand vainqueur de ces élections législatives, le mouvement ANO, qu'attendre selon vous, Michel Perotino, de cet Andrei Babiš 2.0, donc qui a déjà été à la tête du gouvernement entre 2017 et 2021?
Alors, il nous a déjà donné, en quelque sorte, les premiers éléments de sa politique, version 2.0. C'est-à-dire notamment tourner vers une politique contre l'immigration, ce qui dans l'espace tchèque est un petit peu, disons, particulier, parce que l'immigration ici n'est pas spécialement, en tout cas pour l'instant, un problème, disons, visible, et la lutte contre le Green Deal en particulier, et d'une manière générale contre toutes les injonctions qui pourraient venir de l'Union européenne, en particulier sur la politique climatique. Ce qu'il faut maintenant en fait surveiller d'une certaine manière, c'est essentiellement les débats, les relations entre ces trois partis, notamment ou essentiellement sans doute entre Anno 2011 et les automobilistes, de manière plus partielle avec le SPD, pour voir quelles seront les concessions faites, notamment par André Babiche, vis-à-vis de partis qui sont extrêmement eurosceptiques, notamment en comparaison avec Anno 2011, qui a une politique qui est beaucoup plus, disons, conciliante vis-à-vis de l'Union européenne d'une manière générale.
Le président de la République, Peter Pavel, a entamé les consultations avec les dirigeants de tous ces partis et des partis de la désormais opposition ces dimanches et lundi. Il a établi clairement qu'il ne nommerait pas de ministre qui serait ouvertement anti-Union européenne ou anti-OTAN. Quelle est sa marge de manœuvre, selon vous?
Elle est extrêmement faible ou ténue. Le premier point qui a toujours en fait un point d'interrogation en suspens, c'est la question du conflit d'intérêts d'André Babiche. La question est-ce qu'il pourra réellement ou pas être Premier ministre à ce niveau-là.
Le président a indiqué dimanche que André Babiche lui avait présenté plusieurs solutions qui seraient conformes à la loi pour régler ce conflit d'intérêts.
Exactement. Donc, il y a déjà eu sur ce point-là des avancées qui permettent en fait de déboucher l'éventuel problème et qui débouchent directement sur la possibilité d'une nomination d'André Babiche à la tête du futur gouvernement. Donc ça, a priori, c'est déjà réglé, mais il faudra voir quels sont les détails de l'agencement que va proposer André Babiche pour régler ce conflit d'intérêts qui est pour l'instant relativement évident. Et puis, la marge de manœuvre de Pavel sur la nomination des ministres, elle est assez ténue, au sens où la Constitution, qu'ici on surveille de manière beaucoup plus stricte qu'en France, la Constitution ne lui donne pas, par exemple, de domaine réservé. Le président de la République va pouvoir discuter, il va pouvoir essayer d'imposer éventuellement son veto, mais c'est essentiellement au Premier ministre futur. Donc, en l'occurrence, sans doute André Babiche, de prendre la responsabilité de tel ou tel ministre. A priori, le veto du président de la République, il sera au niveau discursif, pas réellement au niveau politique ou constitutionnel.
Une chose intéressante dans l'intervention présidentielle dimanche était également les points qu'il a soulignés, qu'il ne voulait pas nommer des lignes rouges, mais qu'il allait surveiller de près, a-t-il dit, à savoir l'orientation pro-occidentale, mais également la protection des institutions comme la justice et l'armée. Et également l'audiovisuel public, car s'il y a bien un point sur lequel ces trois partis, SPD, automobilistes et ANO, semblent s'entendre, c'est une lutte acharnée contre la télévision publique notamment et la radio publique.
Exactement, essentiellement contre la télévision publique. Il faut quand même peut-être rappeler que, par exemple, André Babiche a refusé de participer à des débats directement lui-même sur les chaînes de la télévision publique. J'irai peut-être plus loin que ce que vous dites, c'est-à-dire que Petr Pavel a dit, c'était le premier point qu'il a cité, qu'il se focalisera notamment sur l'audiovisuel public en première place. En deuxième place, d'ailleurs, entre parenthèses, il a évoqué les universités.
Les
Donc,
universités et
ça
également
correspond.
le parquet, je crois.
Exactement. On voit bien qu'il y a de son côté, un souci déjà de mettre en avant toute une série de points, toute une série de problèmes qui sont déjà visibles en filigrane de la position de ANO d'un côté, des automobilistes et du SPD de l'autre, où on voit très clairement qu'ils ont des bêtes noires. La première bête noire, évidemment, c'est l'opposition telle qu'elle s'est dégagée des urnes, mais aussi en particulier l'audiovisuel public et tout ce qui est en fait indépendant du pouvoir.
Au niveau européen, alors la presse étrangère fait le lien parce que de temps en temps les raccourcis bien sont faciles à faire, mais aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour parler d'un pays comme la Tchéquie dans l'actualité internationale du moment, de la voie illibérale que pourrait prendre la Tchéquie dans la lignée de la Hongrie de Viktor Orban ou de la Slovaquie de Robert Fico. Est-ce que finalement, connaissant un peu plus d'ici la personnalité d'André Babiche, il n'a pas un créneau à prendre pour lui, à savoir peut-être jouer le rôle ou se faire passer pour l'intermédiaire ou le peacemaker entre ces deux pays considérés comme rebelles et Bruxelles?
Absolument. Je pense que c'est la carte qu'il va jouer assez rapidement, même si de notre côté, André Babiche, c'est quelque chose qu'on voit depuis très longtemps chez lui, André Babiche apprécie énormément, en particulier Viktor Orban, également Fico. Viktor Orban notamment parce qu'il gouverne de fait seul. Et ça, pour Babiche, c'est le Graal, c'est-à-dire c'est vraiment ce qu'il souhaiterait faire, y compris en République tchèque. Mais effectivement, cette option d'un intermédiaire, de quelqu'un qui est à la fois ici et là, qui va pouvoir trouver éventuellement des compromis et se mettre du bon côté à la fois à Bruxelles et à la fois à Budapest ou à Bratislava, je pense que ce sera effectivement sans doute sa façon de faire, sinon son objectif premier.
Alors, son objectif auparavant était de devenir président de la République. Il a été battu par Peter Pavel. Comment est-ce que ça va influer sur son prochain gouvernement s'il parvient à former ce gouvernement? Et qu'est-ce que va devenir cette ambition présidentielle avec un Peter Pavel dont on ne sait toujours pas s'il va se représenter?
Alors, sur les ambitions de Petr Pavel, entre parenthèses, je pense que de plus en plus, on envisage un deuxième mandat ou en tout cas une deuxième candidature, notamment, face à ce qui va se produire dans les mois ou les années qui vont venir. Je pense que ça va se dessiner de plus en plus clairement, assez rapidement. En ce qui concerne André Babiche et sa relation avec le président actuel, pour l'instant, en tout cas, ça a l'air d'être plutôt bon enfant. Ça va être plutôt dans une optique d'atténuer les risques de conflit entre l'un et l'autre. Quand on inverse d'ailleurs le regard, le point de vue, il serait intéressant de voir dans quelle mesure cette situation politique ne va pas forcer le président de la République à prendre plus de liberté. Ou de renforcer sa position vis-à-vis notamment du gouvernement, c'est-à-dire à se positionner en opposition institutionnelle, en président en fait imprécateur qui va pouvoir d'une certaine manière atténuer les coups de boutoir qu'on va pouvoir sans doute voir arriver notamment du côté des automobilistes ou du SPD.
Et à la question de savoir si la Tchéquie va prendre un tournant illibéral, qu'est-ce que vous répondez en général?
Je pense qu'on a déjà pris malheureusement ce tournant. C'était pour moi assez visible, notamment pendant la campagne électorale, où plutôt que d'entendre, de voir des débats, des discussions entre les uns et les autres, on voyait plutôt des deux côtés, mais notamment du côté d'André Babiche, c'était beaucoup plus visible, notamment lors des deux derniers débats télévisés. En fait, des formules choc, des formules qui durent quelques mots ou quelques phrases, qui n'appellent aucune réaction. C'est-à-dire, on pose des vérités sans aucune possibilité de discuter sur ces vérités. Celui-ci ment, il faut aller par là-bas, etc. C'est extrêmement, disons, fort dans le mode d'expression. Et c'est assez
Vous y
proche.
voyez, est-ce que vous y voyez l'influence du MAGA, du
Ben oui,
Trumpisme?
c'est là que je veux en venir. C'est très proche de ce qu'on voit notamment aux États-Unis et en particulier dans la façon de communiquer du président américain.
Michel Perotino, merci beaucoup et bonne journée à vous.
Merci Alexis, bonne journée.